L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
L'émission prend la direction de Pleyber-Christ, à quelques kilomètres de Morlaix, pour découvrir une ressourcerie pas comme les autres. En effet, le Repère, c'est une recyclerie dédiée aux matériaux de construction. Donner une seconde vie aux matériaux, c'est le sens de la démarche du Repère. Et on découvre aujourd'hui le lieu avec l'un de ses membres fondateurs, Mathieu Siroux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le Repère, c'est une recyclerie qui se distingue par pas mal d'aspects, notamment sa spécialisation, on va en reparler. Alors, est-ce que le Repère, c'est une des premières recycleries dédiées aux matériaux en Bretagne, voire peut-être en France ?
Alors, c'est récent, le mouvement des recycleries de matériaux. Il y en a une grosse vingtaine, je dirais, aujourd'hui en France, avec, disons, il y en a un quart dans la région Rhône-Alpes, un quart en Bretagne, et le reste qui se dispatche un peu partout en France. Et la plus vieille, elle date de 2008, a été créée à Toulouse, Recyclobat. Ensuite, il y a eu deux autres qui sont aussi un peu pionniers et qui font figure de proue, la Réserve des Arts à Paris et Station Service à Nantes, avec qui nous étions très en lien pour créer notre projet. Et actuellement, en Bretagne, on a plusieurs structures qui sont spécialisées dans la ressourcerie du bâtiment, donc Station Service à Rezé, nous à Pleyber-Christ, Aubaine à Dinan, le comptoir des rues à Plohermel, Bâti Récup à Rennes, l'Écrouvisse à Redon et d'autres structures en cours de création.
Ouais, parce que c'est assez récent finalement dans l'essor du mouvement des recycleries aussi. C'est pas le thème prédominant en tout cas, parce qu'on s'imagine plus avoir des objets de récup ou des choses comme ça. Et en fait, c'est assez dingue quand on y réfléchit, parce que quand on sait que 70% des déchets viennent du bâtiment, quoi. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ?
C'était la norme jusqu'à l'industrialisation de la construction à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire à peu près. C'était la norme de réutiliser les matériaux quand on rénovait un bâtiment, quand on en démolissait un. Et on a produit tellement à bas coût en massifiant que ça valait plus la peine de prendre le temps de bien séparer, de chiner. Et aussi tout un tas de nouveaux matériaux plus composites, plus difficiles à démanteler qui sont apparus. Et aujourd'hui, on y revient parce qu'on a un tas de ressources qu'on enterre en fait sous nos pieds, alors que le cours des matériaux augmente. Et nous, on enterre un tas d'or dans nos décharges ou qu'on brûle dans les incinérateurs. Alors, effectivement, c'est 70% des déchets en France, c'est le BTP. Et si on prend la seule partie bâtiment, qu'on enlève un peu la partie travaux publics, c'est 45 millions de tonnes de déchets par an. Donc c'est moitié plus que tous les déchets ménagers. C'est énorme.
Comment vous, justement, vous travaillez cette collecte de déchets, finalement, qui n'en sont plus après ?
Nous, une grosse partie de notre travail, c'est de contacter les entreprises du territoire. Donc, on va dire, on rayonne sur une trentaine de kilomètres à la ronde, à l'échelle du pays de Morlaix. Donc, pour contacter les entreprises et leur demander quels sont leurs déchets. Et on fait une visite de leur dépôt avec eux, leur entreprise, pour voir, parce qu'il y a des choses qu'elles ne vont pas voir comme déchets. Par exemple, il y a beaucoup de tasseaux qui sont utilisés pour tout ce qui est logistique de transport, qui sont directement balancés, et que les gens d'entreprise ne pensent même pas à cela, quoi. Donc, si on vient faire un tour avec, ça permet de voir des choses qu'eux n'imaginent pas, quoi. Donc, on les contacte, on essaye de s'organiser, d'établir des partenariats avec elles, pour ensuite organiser régulièrement des collectes. De la même manière que fonctionnent des recycleurs, par exemple, quoi.
Ouais. Et dans ces déchets, faut quand même faire peut-être gaffe du coup dans ce que vous récupérez, parce qu'il y a aussi des matériaux qui proviennent directement de la déconstruction. Là, par exemple, je pense à des vieilles baraques où, par exemple, ça a été peint au plomb, machin, tout ça. Vous faites gaffe quand même.
Oui, voilà, tout ce qui est peint au plomb, on peut pas. Tout ce qui est électrique, faut qu'on fasse gaffe. Tout ce qui est amianté, évidemment, on ne prend pas. Et ce qu'on peut voir aussi nous-mêmes sur des chantiers de déconstruction qu'on fait également. Nos matériaux, ils proviennent donc des entreprises avec qui on organise régulièrement des collectes, des particuliers qui amènent chez nous également des matériaux, où là on contrôle à l'entrée, ou alors qu'on vient déposer nous-mêmes sur des chantiers de rénovation, de réhabilitation de bâtiments, où on vient proposer des prestations de dépose des constructions sélectives.
Parce qu'il y en a beaucoup des gisements sur le territoire de Pleyber et un peu autour ? Parce que vous appelez des gisements, en fait, là où vous allez chercher votre matière première, quoi.
Il y en a partout, en fait. Comme ailleurs, partout, il y a des entreprises de la construction. Partout, il y a des administrations qui vont remplacer leur mobilier professionnel. Partout, il y a des gens qui construisent ou qui rénovent des maisons. Donc, oui, je ne saurais pas dire s'il y en a plus qu'ailleurs, mais en tout cas, il y en a partout.
Donc, par exemple, là, si un auditeur nous écoute, alors bon, le fou, c'est un peu loin, quoi. Mais,
on a des gens qui viennent d'ici.
Ah, ok, bah, très bien. Bah, alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, par exemple?
Nous, on va récupérer, par exemple, du bois. Ça, évidemment, ça marche très bien. On va récupérer tout ce qui est matériaux de couverture, tôle, ardoise, crochet, tout ce qui est isolant. On va récupérer tout ce qui est équipement de plomberie, sanitaire, chauffage, du PVC, raccord, etc. On va récupérer tout ce qui est équipement électrique, donc du câble, des disjoncteurs, etc. On va récupérer tout ce qui est outils, quincaillerie. On va récupérer également tout ce qui concerne le sol, du carrelage, du parquet, du plancher. On va pouvoir également récupérer tout ce qui est mobilier professionnel, à différence d'une recyclage classique qui va être sur des tables, des tables de chevet, des chaises. Nous, c'est vraiment des armoires métalliques, des établis, des choses comme ça. On va également avoir un rayon mercerie. En recyclerie généraliste, on va trouver des vêtements. Nous, on va trouver du tissu, par exemple, plutôt chez nous. La matière, plus brute.
Voir du cuir aussi, non ?
Du cuir, voilà. On a pas mal de belles chutes de cuir de maroquinerie. Et voilà un petit peu un panel de tout ce qu'on récupère. Voilà, tout ce qui est matériaux de seconde œuvre, essentiellement, plus des petites choses comme la mercerie, le mobilier professionnel.
Alors, pour quelle cible, au final, c'est qui va venir au repère appeler Bert Christ, vous voir dans vos locaux ?
Nous, c'est essentiellement les particuliers qui vont venir et qui vont avoir des projets d'autoconstruction, de rénovation ou des projets de création. On va avoir, sur la création aussi, on a un petit public d'artistes locaux qui viennent aussi se fournir en matériaux à bas prix. Et on va avoir aussi un peu de professionnels, on va dire que c'est 10% à peu près de la clientèle aujourd'hui. Mais il y a des freins un peu réglementaires et assurantiels, surtout, pour utiliser des matériaux de réemploi dans la construction. Où les assurances sont encore un peu frileuses. C'est en train de bouger doucement. Mais il faudrait que ça aille un peu plus vite, parce que l'enjeu est énorme.
Sur quoi que ça pose problème ?
Sur la prime du contrat d'assurance, le coût du contrat d'assurance, en fait. Ce que le professionnel va gagner en économie d'argent sur les matériaux de réemploi, généralement, il va payer quasiment pareil en surcoût de son assurance pour obtenir la garantie décennale. Et il y a également une difficulté pour les professionnels qui... Voilà, le pro qui vient chez nous, qui construit tout un lotissement, mettons, il a besoin de 146 fenêtres, et ben, il faut être en mesure également de pouvoir fournir. Ouais. Et que le pro n'a pas forcément beaucoup de temps à passer pour chiner sur toute la région... Et ça, la question du flux, du gisement, qui doit encore se massifier pour pouvoir s'adresser vraiment aux professionnels. Là, il y a un objectif de 2% de matériaux de réemploi utilisés dans la construction neuve pour à horizon 5 ans. Donc, c'est un début. Et aujourd'hui, on n'atteint pas encore le 1%, mais ça ne peut être amené que à se développer. Et les professionnels sont de plus en plus conscients de cette exigence écologique et qui voilà, ils sont de plus en plus touchés par ces enjeux-là aussi.
Est-ce que vous, au repère, vous avez un passif de professionnel du bâtiment ? Ou c'est la démarche écologique qui a pris le dessus sur...
C'est la démarche écologique, c'est l'envie aussi de travailler autrement qui nous a réunis. On est 4 cofondateurs et cofondatrices. Et voilà, on a envie de créer une activité qui faisait sens pour nous, qui faisait sens pour la planète aussi. Donc on s'est aperçu de cet enjeu-là autour du réemploi des matériaux, avec tout ce qui était perdu, et qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait des modèles qui émergeaient, qui marchaient, qui pouvaient s'autofinancer, et inclus ici par l'envie de créer son cadre de travail, de re-questionner les questions de hiérarchie, d'organisation, d'emploi du temps, de rapport humain. Et c'est ça qui nous a fait créer le repère, et au bout de 4 ans, quasiment 4 ans, on a réussi à ouvrir, donc il y a quasiment un an et demi maintenant, et on avait des profils qui n'étaient pas du tout issus du bâtiment. On était deux à avoir suivi des formations en urbanisme. Il y a Antoine qui, lui, avait fait pas mal de petits boulots, notamment dans la logistique. Damien qui avait un parcours autour de la médiation culturelle.
Mais les flux se croisent quand même.
Voilà, ça se croisait. Voilà, moi et Chloé, on était urbaniste, et puis avec l'envie de réfléchir sur la manière dont on construit également. Donc chacun avait un petit rapport quand même au sujet. Et après, l'équipe s'est agrandie. On est 6 salariés aujourd'hui. Et dans l'équipe, par exemple, il y a Gurvan qui, lui, a un passé dans le bâtiment où il était couvreur pendant une dizaine d'années et a bossé aussi dans d'autres boîtes du bâtiment.
Ouais, alors tout ça pour arriver au final, là, vous, dans votre proposition, ça va carrément jusqu'à un catalogue, quoi.
C'est ça, un catalogue qui n'est pas encore... qui se construit petit à petit parce qu'on est encore au début. Donc, on ne peut pas encore affirmer qu'on peut répondre à tous les besoins. Mais maintenant qu'on a des partenariats de plus en plus réguliers avec des entreprises, on sait que des tasseaux ou des chutes de charpente, on en aura toujours. On sait que des fenêtres, on pourra toujours en trouver chez nous. De la laine de verre, on sait qu'il y en aura toujours. Donc, on peut plus en plus affirmer ce qu'on va avoir. Pour l'instant, le catalogue qu'on a, surtout, c'est le catalogue de ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas, qui ça est accessible à tout le monde.
Alors, je voulais revenir à la question du modèle économique que propose le Repère, parce que 6 salariés, ça commence à devenir conséquent. Je ne sais pas ce que ça représente en termes d'équivalent temps plein. Ça repose sur quoi le modèle économique entre les entrées et les dépenses financières? Ça me questionnait.
Ouais. Donc, on est 6 salariés pour 4,5 équivalents temps plein. On est 3 à 28 heures par semaine, 3 à 24 heures par semaine. Plus après, il y a des bénévoles qui sont là aussi. On est une association. Il y a entre 2 et 3 bénévoles par jour qui sont là, qui œuvrent avec nous, dans la joie et le froid en ce moment. Et donc, le modèle économique, on a, si je ne me trompe pas, les chiffres vont être à peu près ça, sur 2021, on a 60% des recettes qui proviennent des ventes du magasin. On doit avoir... Je réfléchis un petit peu. Donc, les recettes du magasin, c'était environ 60 000 euros en 2021, 15 000 euros à peu près de chantier de dépose. On a entre 2 et 3 000 euros qui se composent de petites prestations de création, de prestations d'animation et de collecte. On fait payer les collectes auprès d'entreprises parce que c'est un coût pour elles de gérer leurs déchets. Elles sont obligées à ça. Donc voilà à peu près toutes les sources de recettes de notre autofinancement. Et après, c'est des subventions publiques qui viennent. Voilà, nous, on cherchait, pendant les 3 premières années d'existence, à avoir un soutien public pour pouvoir émerger. Il y avait beaucoup d'investissements à faire sur de l'équipement, le local, le camion, etc. Et aider les postes au début. Donc c'est à peu près équivalent. Là, on se retrouvait, sur 2021, à avoir à peu près autant de recettes publiques que d'autofinancement qu'on fournissait nous-mêmes. Et donc avec des aides qui proviennent de l'Europe, sur de l'aide au poste, ça qui vont être validées tout prochainement, de l'aide de la région sur l'investissement, notamment pour la création de l'atelier dont on va reparler un peu plus tard, des aides également du département, qu'on a eu 7 500 € pour les projets jeunesse qu'on va mettre en œuvre là cette année. On a également remporté des prix de la Fondation Crédit Coopératif, prix de la Caisse d'Épargne, le prix, une aide également d'EDF sur la relance écologique suite au Covid. On a également le Fonds de développement de la vie associative, qui est un fonds de l'État, qui nous accompagne. Voilà, des petites choses un peu partout qui, cumulées, nous aident à nous mettre en place et qui nous permettent d'avoir ces 6 postes. Il y a également les contrats aidés. On a 3 personnes dont les contrats sont un peu aidés par l'État.
Parce que ça repose à 60% dans votre produit, du coup, sur la vente de matériaux que vous proposez à la recyclerie.
Voilà, à l'heure actuelle, c'est là.
Et donc, du coup, là, quand vous récupérez des matériaux, là, c'est des dons.
C'est des dons. On reçoit des dons. Et on a choisi, depuis le début, de vendre les matériaux à prix libre.
D'accord, ça.
Voilà, à prix libre, ouais. Et conscient. On incite sur le « et conscient », parce que voilà, il faut donner...
Alors justement, conscience de quoi du coût de la matière première initiale, plus votre travail aussi?
C'est ça, il y a différents paramètres qui rentrent en jeu et qui permettent aux personnes de définir un peu un prix. Donc il y a le coût, la valeur du matériau à la base, il y a son état, il y a le besoin qu'on en a. L'usage, ça, par exemple, on se dit, bon, on veut des matériaux pour faire une jardinière. Combien est-ce qu'on est prêt à mettre pour faire une jardinière. Est-ce qu'une jardinière, j'ai envie qu'elle me coûte
combien
20 euros ?
Combien ça aurait coûté chez un autre, enfin chez un gros ?
Voilà. Ou avec mes moyens, parce que c'est la question des moyens, avec mes moyens financiers, combien je peux m'accorder pour construire une jardinière ou pour faire une véranda, ou, etc. Et donc le travail qu'on fournit, nous voilà, c'est avec tous ces éléments-là qu'on permet aux personnes de proposer un prix. Et nous, on peut donner également un prix indicatif si les personnes le souhaitent. On préfère que les personnes soient les premières à faire une proposition.
La démarche aussi de réflexion.
Et après, on en discute. Ouais. Quoi. C'est, voilà, on peut appeler ça également le prix discuté. Si... Mais voilà, c'était une expérimentation. On s'est dit, on se donne un an pour voir ce que ça donne, la réception par les gens. Et on en est super contents. Et il y a très, très peu de gens à qui ça ne plaît pas. Il y a très peu de mauvais payeurs. Globalement, les gens donnent ce qu'on pensait que ça valait, ou légèrement en dessous, mais il y a aussi des gens qui donnent au-dessus, en prix de soutien. Et donc, on tient à garder ça. Il y a des choses de grande valeur sur lesquelles on est plus ferme, par contre, sur les prix. Mais pour être sur quelque chose qui vaut 2000 euros neuf, on va être plus ferme sur le prix de revente.
Nous, qui n'est pas une grosse perte non plus. Quoi.
Voilà. Grosso modo, chez nous, on va trouver des prix par rapport au neuf. On est à... Dans ce qu'on propose, on va être entre 30 et 40% du prix du neuf. Quoi.
Est-ce que les professionnels du bâtiment peuvent aussi trouver leur place là, dans cette boucle là, de l'économie circulaire et, vous en avez aussi ? Des professionnels qui viennent de, ponctuellement utiliser la recyclerie ?
On a des professionnels qui viennent nous apporter directement des choses, des professionnels qui nous conseillent, qui sont en lien
en tant qu'acheteur.
Depuis le début du projet. En tant qu'acheteur, oui, on en a un peu. C'est surtout des petites boîtes. Des personnes qui travaillent à leur compte ou en petite équipe qui vont venir acheter chez nous, ou on a de plus en plus, c'est pas encore énorme, mais de plus en plus d'entreprises qui viennent chez nous pour la réfection de leurs locaux ou des bricoles ou du dépannage et qui viennent chez nous. Ça leur prend un peu plus de temps, mais c'est du soutien aussi. Donc ça, c'est super et ça va être amené à se développer. Et de même que voilà, les deux collègues qui sont sur la prospection aussi participent à des réunions avec des entreprises pour parler de ce qu'on fait. Enfin, voilà, ça demande encore du temps, mais la réception est bonne et le bouche à oreille marche super bien.
Alors, le repère, c'est 6 salariés qui sont répartis sur quelle mission ?
Alors, on a tous un fonds commun de valoristes. Valoriste, c'est le métier de base, on va dire, dans une recyclerie. Donc le valoriste, il va aller, ou la valoriste, va aller collecter, va trier, remettre en état, assurer de la vente. Donc ça, c'est les missions de base. Et après, on a chacun et chacune des spécificités. Donc moi, par exemple, je vais être sur la coordination et sur les chantiers de dépose. Donc faire les visites, faire les devis, coordonner les chantiers. On va avoir deux collègues qui vont être sur la prospection, donc passer des coups de fil aux entreprises, organiser les collectes. On va avoir un collègue qui est sur les questions de comptabilité, les questions aussi d'organisation du bénévolat et d'accueil. On a Anaïs qui, elle, est responsable de l'atelier partagé. On a un collègue qui est responsable un petit peu des supports de communication. Tandis qu'il y a une autre qui est dessus. Responsable de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu les différentes tâches. Si un collègue Urvan aussi, il est responsable un petit peu de la logistique interne, un peu rôle de magasinier. Comment on range ? Parce que c'est un sacré bazar. Il suffit qu'on laisse 2-3 semaines d'inattention et on ne s'y retrouve plus. C'est une attention constante pour maintenir tout rangé, que les gens puissent s'y retrouver et que nous, on puisse avoir de la place sur les arrivages constants.
Ouais, parce qu'on n'a pas parlé du lieu en lui-même aussi, parce qu'il y a un espace vente aussi, mais il y a un espace aussi qui a plus peut-être une dimension associative aussi, peut-être ?
Ouais, tout à fait. Bah, le projet reste associatif tout de même.
Oui, dans tous les cas. Ouais.
Dans tous les cas. Et voilà, nous, on a la chance d'avoir un très grand espace. Donc, aujourd'hui, on a, si on veut se vanter un petit peu, on peut dire qu'on a la plus grande recyclerie de matériaux en Bretagne à l'heure actuelle. Donc on a 2500 mètres carrés. Donc on est situé à la gare, le long de la voie ferrée, c'est les anciens entrepôts ferroviaires. Et qui est séparé, donc il y a un espace magasin à l'entrée, puis l'entrepôt qui est aussi du magasin, mais c'est pour tout ce qui est plus massif. Et au fond de cet entrepôt, on a construit l'été dernier un atelier partagé, donc sur à peu près 200 mètres carrés. donc avec des machines professionnelles pour permettre de travailler le bois, le métal, bientôt pouvoir faire également la peinture, du vernissage et un espace de sablage qui arrivera aussi tout prochainement. Et donc ça, on l'a ouvert au public tout récemment, à la mi-janvier. Et l'idée est de permettre de mutualiser des machines, des outils pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas la place chez eux, pas l'outillage, pas forcément les connaissances, le savoir-faire, de venir ici bricoler, réaliser leur projet sous la supervision de personnes qui ont l'expérience dans le domaine. Donc c'est un projet qu'on a construit pendant plus d'un an avec un groupe de bénévoles qui sont pour beaucoup menuisiers ou anciens menuisiers, mais pas seulement. Et donc aujourd'hui, c'est l'atelier bois qui est déjà ouvert au public. Donc là, on a 160 mètres carrés d'atelier bois avec des... je peux faire une petite liste de machines. Avec, il y a une scie à format, une toupie, une dégauchisseuse, une raboteuse, une scie à ruban, une mortaiseuse, un tour à bois, plus tout un tas d'outils électroportatifs qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes en même temps qui vont faire leur projet. Les personnes, on leur demande seulement de venir assister participer à une journée, une session d'entrée. C'est entre l'initiation et la formation, donc pour expliquer la philosophie de l'atelier, toutes les règles de sécurité, ce qu'on peut faire, mais surtout ce qu'on ne peut pas faire avec les machines, et ce qu'il faut faire attention à ses doigts, et de la pratique pour capable de pouvoir revenir à l'atelier de manière plus autonome. Après, les gens reviennent, dès lors qu'il y a un bénévole qui est là pour superviser l'atelier, les gens peuvent venir, quoi. Donc là, actuellement, c'est... à peu près 3 jours et demi par semaine que l'atelier est ouvert au public, et les plages vont augmenter progressivement. Et on a souhaité faire cet atelier partagé aux tarifs les plus abordables possibles. Donc là, par exemple, la session d'entrée pour l'atelier bois, c'est 70€, et qui donne accès après à 1 mois offert ou 3 journées à utiliser quand on veut. Et ensuite, pour 40€ par mois, les gens viennent quand ils veulent, du moment qu'il y a un permanent qui est présent, ou alors il y a les tarifs à la journée. Qui sont un peu plus chers, on privilégie au mois, où l'idée c'est vraiment que les gens viennent, on dise « Ah bah tiens, je suis disponible cet après-midi, est-ce que l'atelier est ouvert ?» Oui, bah allez, j'y vais. Ça puisse se décider un peu d'un moment de créer de la vie, vraiment, de l'échange. Donc 40€ par mois ou 30€ par mois en tarif social. Si les gens estiment que ça fait un peu cher pour eux, pour leur revenu, eh ben, on ne demande pas le justificatif de la CAF ni rien. On dit « Ok, 30€ et tu viens ». Et donc l'atelier métal qui va permettre la soudure et l'activité de serrurerie qui va ouvrir tout prochainement. On est en train de peaufiner un petit peu la session d'entrée pour l'atelier métal parce que c'est encore un autre métier, on va dire. Et là, on est heureux que ça prenne forme. C'est un gros chantier participatif tout cet été de cloisonner, d'équiper cet espace-là. Et on a hâte de recevoir des gens. Donc les particuliers, donc là j'expliquais pas particulier, cet atelier partagé, il peut être également accessible aux professionnels qui eux sont sur d'autres tarifs, ils nous contactent, on peut les retrouver sur notre site internet également. Donc imaginons une entreprise de menuiserie qui n'a pas envie d'investir 15 000€ dans une cabine de peinture, eh ben, elle peut nous contacter pour l'utiliser s'il en a besoin que 2 semaines par an. Plutôt que d'investir, ça va être plus facile pour elle de venir chez nous. Donc voilà, des professionnels occasionnels comme ça, qui vont pouvoir venir. Mais également, on souhaitait pouvoir accueillir des professionnels en résident, on les appelle, qui vont rester là plusieurs mois ou une année. Plutôt des personnes en reconversion, des personnes qui veulent tester leur activité après la sortie de formation, qui vont être là avec un peu des légères contraintes, parce qu'il y aura du monde autour, mais par contre avec un tarif très accessible il me semble... Ça vérifie sur notre site, mais normalement, c'est 300€ par mois ou 200€ par mois si jamais ils acceptent de donner 2 jours et demi par mois, donc une demi-journée par semaine, de coup de main à l'association. L'idée, voilà, on n'est pas juste à louer un espace, mais qu'il y ait du lien qui se crée également.
Ouais. Recyclerie, le repère, un lieu de vie aussi, un lieu de partage. Je voulais terminer par une dernière question sur le rayonnement aussi. On l'a évoqué un tout petit peu en début d'émission, mais ça rayonne large en fait. Hein. C'est quasiment une bonne partie du Finistère, voire les Côtes d'Armor un peu aussi, quoi.
Les gens viennent. On a à peu près d'une cinquantaine de kilomètres à la ronde. Bah, c'est vrai que pour aller dans un magasin de bricolage pour acheter les matériaux, on est déjà habitué à faire de la route. Il n'y en a pas tous les 5
km. Sur Crozon, voilà.
et que là, on a à peu près 1400 personnes différentes qui ont adhéré à l'association depuis le début, donc qui sont passées à la caisse. Et ouais, qui viennent à peu près. La plupart viennent d'un rayon de 10-15 bornes, mais on a des gens qui viennent du Fou, on a des gens qui viennent de Brest, il y en a des gens qui viennent de Guingamp, de Saint-Brieuc. Ça vient d'assez loin quand même.
Ouais, et ça donne pas envie un peu d'essaimer un petit peu aussi l'idée sur le reste du territoire, ou vous êtes focus sur Plébert?
Bah, on va pas ouvrir des filiales et des franchises, ça n'aurait pas de sens, non.
Jusqu'à devenir un sponsor du Stade Brestois, qui sait, peut-être un remplacement d'un autre.
L'enjeu, c'est qu'il y ait vraiment une recyclerie de matériaux par bassin de vie. Donc nous, on est sur le pays de Morlaix, mais qu'il y en a une sur le pays de Brest, sur le pays de Quimper, etc. C'est vraiment ça l'enjeu. Et nous, on a investi beaucoup dans le réseau régional, qui est animé par la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Donc qui anime des temps réguliers pour nous mettre en réseau avec les autres acteurs du réemploi de matériaux. Et donc ça marche vachement bien. Et là, on s'est fixé la semaine dernière un peu les enjeux pour 2022. Et notamment, il y a un gros enjeu autour de l'aide aux nouveaux porteurs de projets, à partager nos outils, à mutualiser. On est vraiment dans un esprit de partage pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui montent des projets sur le réemploi de matériaux.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Donc, on le rappelle, pour l'instant, le Repair, c'est sur Pleber Christ, hein, pas de filiale ailleurs. Et c'est à 15 minutes de Morlaix. Ben, merci beaucoup.
Merci.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.